en sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
La Martinique a son mot à dire aujourd'hui dans le fauteuil d'en sol majeur. La Martinique belle et caribéenne qui a produit un mythe du 7e art. Bonjour Eusanne Palsy.
Bonjour.
C'est à Gros-Morne que la passion du cinéma saisit la petite Eusanne. La suite sera connue internationalement. Rue Cazenègre, une saison blanche et sèche, Siméon, côté fiction. Côté documentaire, notamment une série en trois volets consacrée à Césaire, son père spirituel. Et puis parcours de dissident sur ces rebelles antillais au régime de Vichy. Sur la route caillouteuse et plein soleil de cette scénariste, réalisatrice, productrice, de grands noms comme de bonnes fées penchées sur son berceau. François Truffaut, Robert Redford, Marlon Brando, parce que c'est si bon. Première femme noire à être produite par les studios américains, Eusanne Palsy s'avance aujourd'hui comme la forte tête d'un cinéma mordant et engagé, en réalité bien loin du fairy tales et autres contes de fées. On est très heureux de vous recevoir en sol majeur, Eusanne Palsy. Vous êtes si rare.
Merci. C'est un bonheur d'être ici en tout cas.
Et je vous reçois dans le cadre de la 41e édition du Festival international du film de femmes. Festival dont vous êtes l'invité d'honneur et le public aura droit à une masterclass. Il a beaucoup de chance, on y reviendra. Alors vous savez que vous êtes ma première Eusanne. D'où vient votre prénom ?
En fait, mon grand-père qui est un latiniste, il me l'a composé en grec ancien. Donc il m'a expliqué que c'est bonheur, vie, pureté, voilà, c'est ce que ça veut dire.
Votre carrière de cinéaste s'est donc éclairée grâce à l'auteur de La rue Cazenègre. Donc un petit cadeau, je vous propose d'ouvrir votre en sol majeur avec la voix de son auteur, Joseph Zobel.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. La mer, d'autres soirs et d'autres matins, la mer, soir et matin, la mer, toujours la mer, peur au-dedans, dehors, la mer. Il y eut calme plat et tempête sous les crânes, il y eut trouille au ventre. Et horizon perdu, 69 jours, 69 nuits, la mer. Il y eut un soir, il y eut un matin, Colomb vit que cela était bon. Le 12 octobre 1492, il patauge dans l'eau jusqu'à 1800 et jubile les Indes. En réalité, le soleil qui l'aveugle est celui des Antilles.
B comme boîte à souvenirs.
Gros souvenir pour vous, Eusanne Palsy, la voix de ce poète martiniquais, donc Joseph Zobel, 1915-2006. Et j'ai cru comprendre que sa voix littéraire a marqué l'adolescente que vous étiez. Pour quelle raison ?
Parce que Zobel, c'est un peu notre pagnol. Voilà, il parlait du petit peuple, il parlait de petites gens. J'ai pour habitude de dire que Zobel, il peint avec sa plume. Quand il vous décrit un corps de femme ou d'homme, ou... voilà, c'est un peintre quoi.
Et c'est la première fois que vous entendiez parler de votre monde à vous sous la plume d'un auteur.
C'était la première fois, ça a été un choc culturel pour moi parce qu'à l'école, on nous disait que nos ancêtres c'était les Gaulois. Deuxièmement, tous les livres venaient, ils viennent encore de Paris. Donc notre réalité, elle était inexistante.
Mais vous étiez à 14 ans déjà dans une forme de conscience politique, vous diriez ?
Politique, bon, tout est politique, hein,
on le sait
finalement.
Bien.
Mais je ne doutais pas que.
Tout n'est pas affaire de conscience.
Voilà. En tout cas, à 14 ans, j'écoutais les textes de Césaire. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, ces textes. Mais je ressentais l'émotion qu'il y avait derrière. Et j'étais déjà en révolte avec une certaine société. Je posais tout le temps des questions, tout le temps.
Quel type de questions ?
Je ne comprenais pas pour quelle raison, au cinéma, il n'y avait que des blancs. on ne voyait jamais de noir. Ou quand il y avait un noir, ou dans le film, qui était un film américain dans la plupart des cas, c'était un rôle dégradant, c'était vraiment dévalorisant. Et le deuxième phénomène, c'est que le distributeur, il augmentait le prix du ticket. Parce qu'il y avait un noir, et les gens avaient une telle soif, une telle faim de se voir. Et très tôt, j'étais consciente de ça.
Alors, Le Gros Morne de Joseph Zobel ressemble un petit peu au vôtre. J'aimerais bien que vous nous racontiez, vous qui êtes née en 1958, Zane Palsy. Son roman raconte notamment la dureté de la vie dans les champs de canne à sucre, mais dans les années 30. Est-ce que c'est ce que vous avez connu, vous aussi, dans les années 60 ?
Non, pas du tout. J'ai eu la chance d'appartenir à une famille, comme on dit en anglais, middle class, voilà, une classe moyenne. Donc, on n'a jamais manqué de rien. Par contre, mes petits camarades de jeu à l'école, etc., je côtoyais beaucoup des enfants qui étaient des enfants de coupeurs de canne. Donc, c'est un monde que je connaissais bien.
Et de quoi on vivait chez vous ?
Mon père, il était cadre dans une confiserie. Et ma mère, elle ne travaillait pas. Le travail était à la maison. Comme disait mon père, s'occuper des enfants, c'est un énorme boulot. Voilà, il n'a jamais voulu qu'elle travaille.
Magnifique papa, on lui rendra peut-être hommage tout à l'heure. On se souvient aussi que le petit héros de la rue Cazenègre est un mulâtre. Alors, est-ce que forcément, il y avait une forme d'hybridation chez vous, dans votre famille à vous, Eusanne ?
Enfin, José n'était pas mulâtre. Non ? C'est son copain Léopold qui était le petit mulâtre. Et José, il était très africain. Dans ma famille, vous savez, dans toutes les familles antillaises, c'est ce qu'on appelle the rainbow, c'est l'arc-en-ciel. Ah, c'est le métissage qui veut cela, parce qu'on est tellement métissé, on a du sang nègre, comme j'aime à dire, justement. Quelquefois, ça choque, mais...
Oui, aujourd'hui, ça choque.
C'est dommage, en tout cas. Ah non, absolument. Parce que je vais vous dire une chose que je n'aime pas quand on me dit black. Non, je suis une négresse. Par contre, si je rencontre quelqu'un qui s'adresse à moi ici et qui me dit la négresse, ça va pas bien se passer.
Donc mais vous avez le droit de le dire. Voilà.
Absolument. Ou les amis, nos amis qui parlent le même langage que nous. Mais au contraire, je trouve que c'est un terme tellement poétique. Parce que quand j'étais petite, je tombais, je me faisais mal. Ma grand-mère me disait, oh, ma petite négresse, ça mamie, viens, peu importe un câlin. C'est beau, le terme nègre et négresse. Comme on dit le négro spirituel, par exemple, l'art nègre, c'est magnifique.
Donc voilà. Du sang nègre.
Donc du sang nègre, du sang donc, européen, du sang asiatique, du sang d'Indien d'Amérique. Vous savez, c'est un cocktail. Hein.
Et les oreilles martiniquaises, qu'est-ce qu'elles entendaient dans les années 60-70 ? Ah. Qu'elles reconnaissent vos oreilles, Eusanne Palsy.
Les vaccines que j'ai découvert, justement, ces instruments de musique en allant à Haïti. Et ce sont des morceaux de bambou. On souffle à l'intérieur et ça vous donne, mais il y a une manière, il y a une technique aussi, hein, et ça vous donne ce son envoûtant.
Et vous vous souvenez aussi de ce qu'on appelle les prières des merles ?
Oui, oh là là, ça a bercé notre enfance. Tous les jours, à partir de 16h30, 17h, les oiseaux sillonnent le ciel et vont tous au même endroit sur le plus haut palmiste du coin. Et ça prie, ça piaille, ça volette. On a l'impression que ce sont des salutations au soleil qui se couche, quoi, qui s'en va.
Pour dire qu'éventuellement vous viviez beaucoup dehors dans cette Martinique des années 60-70.
Ah, toujours.
Mais dedans l'école, c'était sans doute très important. Quelle place avaient les études dans votre famille ?
Ah, mais c'était très important. C'est comme le personnage de Mantine dans Rue Cazenègre, cette femme, cette vieille négresse qui, justement, elle est née dans le champ de canne, elle a grandi dans le champ de canne. Et cette femme qui ne sait ni lire ni écrire, elle savait que seule l'éducation allait sauver cet enfant et qu'il fallait surtout pas qu'il aille dans le champ de canne.
Et vos grands-parents ressemblaient à Mantine.
Absolument.
Voilà. La dernière phrase du roman de la rue Cazenègre disait « C'est aux aveugles et à ceux qui se bouchent les oreilles qu'il me faudrait la crier. »
Mais oui.
Il parlait quoi ? De l'histoire de la Martinique, de ces années 30 ?
De la souffrance, de tout ce qu'on vit. Et ça me fait très mal, hein. Je vous assure que c'est pour moi, c'est une blessure. Je ne me suis jamais sentie aussi étrangère ici, dans mon propre pays. Vraiment. C'est-à-dire que on s'intéresse si peu ou pas à ce que nous sommes, nous, Français des Antilles. Notre culture, ça ne les intéresse pas.
Alors Zobel, lui, il a le mérite justement de poser son regard sur cette Martinique qui marche encore pieds nus dans les champs de canne à sucre. 17 prix internationaux en France et aux États-Unis, c'est ce que vous rapportera l'adaptation de ce roman qui devient donc sous votre caméra Rue Cazeneigre. Et ça raconte à la fois la relation d'amour entre cette grand-mère magnifique qui a tout compris effectivement du pouvoir de l'école et son petit-fils et le quotidien d'un village d'ouvriers d'agricole du gouvernorat de Martinique dont des ouvriers qui sont sous la férule des béquets.
Martin, quoi, Martin ? On travaille, c'est travail pour la haine.
Quand vous faites votre travail, faites-le convenablement. Le paquet doit faire 10 mètres et les cannes sont trop courtes.
Commandeur, tout le travail va faire bien. Vous donnez 10 mètres de maman d'eau.
Nicoco, pas pour te faire l'idée au moins.
Foutez un picot quand il joue.
Oui, patron.
T'es paillé, maman Céline. 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 T'es paillé, maman Céline.
On ne se lasse pas en sol majeur de réécouter, de revoir votre Rue Cazeneigre Zane Palsy. Oui, là, on a une scène qui, effectivement, rappelle que le système de l'esclavage a peut-être été aboli, mais pas tant que ça.
Mais oui.
Alors, on ne se lasse pas, notamment... pour une force particulière dans votre film, c'est sa langue. Et je rappelle que les éditions Albin Michel n'ont pas voulu éditer le roman de Zobel à l'époque, justement pour les tournures en créole. Et c'est finalement Alioune Diop, de présence africaine, qui le fera. Est-ce que ce créole a été dur à imposer aux producteurs et aux décideurs financiers, Zane Palsy ?
Oui, c'était très compliqué avec un des producteurs, Michel Houler, je peux citer son nom. Je me suis battue contre lui pour plusieurs choses. Le personnage de Médouze, l'Africain, le père spirituel de José.
Doutasek.
Doutasek. C'est tellement évident qu'il faut prendre un Africain. Ben, il m'a insulté. Il m'a dit, écoute, m'emmerde pas, tu sais, tu prends n'importe quel vunec de ta campagne et tous les Noirs se ressemblent de toute façon, ça ne se verra pas. Il m'a sorti cela. Bon, et après le créole, interdiction formelle de tourner en créole. Ça veut dire que, je lui dis, mais c'est n'importe quoi. Les ouvriers, les coupeurs de canne vont injurier en créole. Ils vont injurier dans la langue de Voltaire. C'est pas possible. C'est trahir totalement l'œuvre et puis la culture. Donc, quand il était là en tournée, on faisait une prise en français. Et dès qu'il avait le dos tourné, on faisait la même prise en créole.
Est-ce que c'était aussi une forme de prouesse pour le cinéma des années 80 ? Votre film, il a été réalisé en 83, hein, de mémoire, que de mettre le projecteur sur cette communauté noire antillaise.
Ah ben, c'était un parcours du combattant, c'était quelque chose... Déjà, je remercie le CNC. D'ailleurs, il y avait Costa Gavras, il faisait partie du jury. Il y avait donc... Agnès Varda, tous ces gens. Bon, justement, ils ont compris ce que quelqu'un comme Truffaut, par exemple, a senti.
Qui il a été pas donc conseiller de artistique de votre, voilà. De votre Rue Cazeneigre. Par quel hasard ?
C'était mon mentor, spiritual mentor à l'époque. J'ai vu ses films, L'enfant sauvage, qui m'avait bouleversée.
Justement, donc... là, c'est votre film, il met en scène l'enfance, les enfants. Hein, ce sont les héros de votre Rue Cazeneigre.
Nos mondes se ressemblent.
Absolument.
Voilà, nos univers se ressemblent.
Quel est le conseil que vous avez retenu de Truffaut ?
Il m'a dit, moi je ne viendrai pas aux Antilles, vous connaissez votre sujet par cœur, vous savez, continuez à être rebelle. Continuez à être rebelle.
Donc finalement, Truffaut m'inspire cette question. Ce film a donné finalement le là de votre cinéma futur, Zane Palsy.
C'est exact.
On va y revenir. Bon. Un peu de goka pour se remplir le cœur de beauté noire sur RFI avec Akio. C'est un groupe guadeloupéen qui vous fait du bien. Pour quelle raison ? Mais il n'y a pas qu'à vous qui fait du bien, je peux vous le dire. Pour quelle raison vous les aimez ?
Mais c'est ce qu'ils dégagent, c'est le son avec les tambours. Je veux dire que quand vous entendez ça, mais si vous avez mal à la tête ou mal au ventre, vous n'avez plus mal du tout, vous êtes guéri, quoi.
Ou mal à l'histoire.
Ou mal à l'histoire, exactement, ça, c'est vrai.
Gilo, gilo, agna, agna, laissez-moi aller, gilo, quittez-moi aller, gilo, quittez-moi bâti, gilo, à partir qu'à voyager, peut-être ton joint qui retourne.
Gilo, gilo, agna, agna, laissez-moi aller, les criers les répondaient, répondaient les vélabouets, les criers les tambouillés, les tambouillés mènent les moyens.
Imaginez ce spectacle extraordinaire, 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle naissance prodigieuse. Ça vaut bien tous les bing-bong.
Aimé Césaire.
C'est donc une colère cosmique.
Une sorte de colère cosmique et, autrement dit, la colère créatrice. Elle est créatrice. Alors nous sommes loin de cette Néréide sous la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des terres de colère, c'est des terres exaspérées, c'est des terres qui crachent, qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer l'œuvre première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir d'une sorte d'acceptation et de résignation. Il y a une sorte de sommation de l'histoire et une sommation de la nature à nous faire.
FCOM, fille de...
Sur RFI pour en sol majeur, Ozane Palsy, fille spirituelle donc d'Aimé Césaire, qu'on vient d'entendre.
Oui, j'ai découvert sa poésie, j'étais très jeune. Je ne comprenais pas toujours ce que disaient les mots. Hein,
pour me rassurer,
esprit, voilà.
Vous me rassurez.
Mais je sentais, c'est comme les gens, je parlais du petit peuple, là, ce qu'il appelle le petit peuple avec amour, hein, c'était son peuple, bien aimé. Quand Césaire, homme politique, prenait la parole, les gens partaient avec leur petit banc sur la place de la Savane, les mamans, les papas, et ils buvaient les paroles de Césaire.
Qu'est-ce qu'il vous a appris philosophiquement?
Ben, déjà, comment gérer les choses, sa vie, les éléments qui vous entourent, l'esprit.
En tout cas, vous vous sentiez, pour reprendre ces mots à l'instant, sommé par l'histoire avec un grand H.
Absolument.
De créer un nouveau monde.
Un nouveau monde et continuer l'œuvre première, parce que quand il parle d'œuvre première, c'est ça aussi. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont créé comment la Martinique s'est faite. Et nous avons ce devoir de poursuivre justement cette création.
C'est pour cette raison que vous lui avez donc consacré 3 documentaires dans une série intitulée Aimé Césaire, une voix pour l'histoire.
Tout à fait.
C'est votre manière à vous
de le remercier. Et aussi de partager justement cette parole avec le monde entier. Parce que ce coffret, il y a 3 DVD, mais qui sont en 6 langues.
Sa parole est universelle.
Elle est universelle.
Mmh. Alors, c'est aussi le temps de faire parfois l'inventaire, c'est toujours salutaire de le faire. Moi, je croise parfois des Martiniquais, anticolonialistes de la première heure, qui sont critiques, aujourd'hui encore, sur la départementalisation qu'il a décrochée en 1946, lui préférant l'indépendance. Mm-hmm. Est-ce que, selon vous, Eusanne Pelsi, Césaire se serait trompé ?
Moi, je pense que Césaire ne s'est pas trompé, parce que Césaire le dit lui-même, d'ailleurs. Il dit, si on m'assure que la Martinique indépendante sera autre chose qu'Haïti, autre chose que les îles anglaises qui souffrent et qui, dès qu'il y a un problème, tout le monde doit voler au secours de ces îles parce qu'ils sont complètement affamés, ils n'ont rien. Et si on m'assure qu'il n'y aura pas de tonton Macroute, qu'il n'y aura pas de violence, qu'il n'y aura pas de dérive du pouvoir, je dis tout de suite, allons-y. Mais si c'est pour ensuite aller dans les couloirs de l'ONU pour mendier de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires ou les autres, il dit ça aura servi à quoi de demander l'indépendance. Mmh. Et son discours était de dire que l'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache et ça se paye dans le sang. Est-ce que la Martinique et la Guadeloupe sont prêtes à payer ce prix-là? C'est la question qu'il pose. Et je vous assure que Césaire savait. Il parlait d'autonomie. Il a toujours parlé d'autonomie. Ça veut dire, nous sommes dans un grand ensemble. Nous sommes Français. On a six siècles, cinq siècles, six siècles de colonisation. D'accord ? Alors, exigeons de la France ce qui nous est dû, puisque nous sommes Français. Voilà.
Alors, la fille spirituelle de Césaire a en tout cas choisi de donner la parole à ceux qu'on appelait, là je m'en vais dans l'histoire, en 39-45, ceux qu'on appelait les dissidents. Qu'est-ce qu'on appelle un dissident aux Antilles dans les années 39-45?
Le dissident, c'est celui qui a entendu l'appel du général de Gaulle quand il était à Londres et qui va décider, et il est tout jeune.
On est dans la France vichiste à ce moment-là.
On est dans la France vichiste et la Martinique et la Guadeloupe sont gérées par un amiral pétainiste, l'amiral Robert, qui a été condamné d'ailleurs à la fin de la guerre. Et ces jeunes entendent l'appel, ils ont 16-17 ans, filles et garçons. Ce ne sont pas des soldats, c'est des jeunes qui aiment cette France. Et ils disent, la France est en danger, donc il faut aller libérer la France. Donc ils vont partir, c'était 5000. Alors, comment rejoindre De Gaulle? De Gaulle est à Londres. Donc ils vont aller vers les îles anglaises comme des boat people.
Les embarcations de fortune.
Les pêcheurs vont justement être très vigilants parce que la police de l'amiral les guettait. Ils coulaient l'embarcation. Et beaucoup ont péri en mer. Donc, le dissident, c'est ça. C'est celui qui a entendu l'appel, qui est parti, qui a risqué sa vie pour aller défendre la France.
Et vous, Eusanne Pelsi, vous avez recueilli le témoignage de ces dissidents dans un documentaire éponyme.
Quel déshonneur, déserteur. C'est un triste mot dans le dictionnaire français, déserteur. Mais pour nous, Mancias Hugues et moi, pour nous, jeunes, antillais, nous ne pouvons pas tolérer le servage, l'esclavage. Nous voulons défendre la France. Nous partons du bord de la Jeanne et nous partons vers je ne sais où le destin nous emportera.
Alors mon frère et moi et des copains, nous allions coller des affiches sur les murs de Fort-de-France et ma mère était apeurée, quoi. Elle avait peur qu'il nous arrive quelque chose et elle a décidé, elle a dit, puisque vous voulez partir, ben je vais m'arranger pour vous faire partir. Nous avons débarqué à Saint-Pierre. De Saint-Pierre, nous avons marché jusqu'au prêcheur et nous avons dormi chez le pêcheur. Et le lendemain matin, à 4 heures du matin, nous sommes partis en canot, habillés avec chapeau comme un pêcheur, comme si on pêchait, quoi, parce qu'on nous surveillait.
Un extrait en sol majeur de ce documentaire incroyable intitulé Les dissidents et que vous réalisez, donc Eusanne Pelsi. C'est incroyable parce que ce type de déclaration d'amour patriotique, c'est quelque chose qu'on n'entendrait plus du tout aujourd'hui. Et là, on l'entend dans la bouche donc, de ces Martiniquais qui avaient 16-17 ans dans les années 40.
Oui, et puis qui ont failli mourir inconnus, vraiment. Ils étaient très très malheureux. Ils ne comprenaient pas pourquoi la France ne les a pas reconnus alors qu'ils sont partis spontanément. Ils ont fait toutes les guerres. Ils sont allés aux États-Unis, à Fort Dix. Ils ont eu le parcours du combattant entraîné par les Américains et envoyé rejoindre De Gaulle. Beaucoup sont morts, beaucoup sont revenus blessés, mutilés. À la fin de la guerre, on les a renvoyés chez eux.
La patrie n'a pas été reconnaissante.
Pas du tout, pas, complètement amnésique. Et là, j'entendais tellement, c'était une souffrance chez ces hommes. Donc ils ne demandaient pas de l'argent, ils demandaient une simple reconnaissance, un mémorial. Un mémorial. Et la Légion d'honneur, on donne la Légion d'honneur à d'autres personnes, pourquoi pas à eux. Je souffrais avec eux. Et je lui dis, écoutez, je ne suis pas une politique, je ne peux pas vous donner de mémorial. Par contre, je vais vous donner un mémorial audiovisuel. Une œuvre qui va être dans 4 langues et qui va circuler dans le monde entier et tout le monde saura ce que vous avez fait.
Non. Donc il y a en vous, Eusanne Pelsi, cette fameuse colère volcanique dont parlait Aimé Césaire. Et c'est cette colère, vous diriez, qui vous fait faire du cinéma pour raconter quoi? Seulement la communauté antillaise ou plus globalement le monde noir?
Non, ce serait faire du nombrilisme, mais moi, comme j'ai toujours dit, le cinéma de ghetto, ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous rendrait pas service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et évidemment, comme mon cinéma, il est coloré, il est universel, mais c'est normal qu'étant noir, ayant vécu ce que j'ai vécu, je veux justement réparer, combler ce vide. Donc c'est pour ça que mon cinéma, il est ce qu'il est.
Alors, puisque je vous reçois dans le cadre du Festival international du film de femmes, Eusanne, donc la question s'impose, est-ce que vous pensez avoir réalisé des films non seulement métissés, comme vous dites, mais aussi des films spécifiquement féminins?
Dans tous mes films, il y a des femmes.
Oui, mais est-ce que ça en fait un film...
Pas un film féminin, je sais pas.
Féministe?
Je vais vous dire une chose. Mon père a été le premier féministe que j'ai connu.
Et ça voulait dire quoi, être un papa féministe?
Un papa féministe, c'est un papa qui dit à ses fils, écoutez messieurs, vous avez 10 doigts comme vos sœurs, donc vous prenez le balai, vous balayez, vous faites la vaisselle, il n'y a aucune tâche domestique marquée fille là-dessus.
Waouh.
Mon père disait ça.
Je l'achète votre papa, moi, tout de suite.
Quand il allait à la pêche, par exemple, moi je disais, papa, j'aimerais bien t'accompagner. Il m'a dit, ah mais bien sûr. Très fier que je m'intéresse justement à tout ce qui était soi-disant tâche réservée aux hommes.
Donc, est-ce que ça fait de vous une cinéaste aujourd'hui féministe?
Je ne sais pas. Je vais vous dire très sincèrement que je suis très féminine et j'ai toujours défendu la femme. J'ai dit et je le redis. Je mourrai que je le dirai. Je ne changerai jamais, mais pour rien au monde, ni mon sexe, ni la couleur de ma peau.
Alors, puisqu'on est dans le féminin, un petit peu de Maya Angelou.
Many people wonder where my secret lies.
Les jolies femmes se demandent où réside mon secret.
I'm not cute or built to suit a fashion model size.
Je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin.
When I start to tell them, they think I'm telling lies.
Mais quand je le leur révèle, elles pensent que je mens.
I say, it's in the reach of my arms.
Je dis, mon secret réside dans la portée de mes bras.
The stride of my step.
La foulée de mes pas.
The curl of my lips.
L'ourlure de mes lèvres.
I'm a woman.
Je suis une femme.
Phenomenally.
Phénoménal.
I walk into a room just as cool as you please.
Je marche dans une chambre, fraîche à souhait.
And to a man the fellows stand or fall down on their knees.
Et pour un homme, les consoeurs se lèvent ou tombent à genoux.
Then they swarm around me, a hive of honeybees.
Mais eux bourdonnent autour de moi. Une vraie ruche d'abeilles.
I say,
je dis,
it's the fire in my eyes.
C'est dans le feu de mon regard.
The flash of my teeth.
Et l'éclat de mes dents.
The swing in my waist.
Le balancement de ma taille.
The joy in my feet.
Et la joie de mes pieds.
I'm a woman.
Je suis une femme.
Phenomenally.
La femme phénoménale.
C'est comme chambre intérieure.
Quelle voix cette Maya Angelou. Ça, c'est un poème phénoménal woman que toute femme, que tout être humain devrait connaître.
Tout le monde, absolument. C'est beau, c'est très beau. Puis j'ai eu le privilège justement de passer beaucoup de temps avec elle. C'était ma marraine spirituelle.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous a transmis?
Je pense qu'on avait beaucoup de points communs.
Oui.
Donc, elle m'a donné beaucoup de courage. Parce que faire le métier que je fais et être dans la résistance en permanence, dans la résilience, c'est pas évident. C'est un choix que j'ai fait.
Pourquoi dans la résilience?
Oui, parce que quand vous voulez vous apporter des projets, vous êtes cinéaste et que vous estimez que c'est légitime, c'est normal que nous soyons à l'écran comme tout le monde et qu'on vous donne l'impression que vous n'êtes rien, que votre culture, ça n'intéresse personne. Être non, on s'en fout. On vous dit que c'est pas vendeur. Je vous assure que ça crée des blessures, ça vous perturbe.
Parce qu'il faut qu'on en parle. Effectivement, oui. Vous avez été assez silencieuse médiatiquement sur toutes ces questions. Et nous, public, on s'est un peu posé des questions. Je l'ai dit en début d'émission, il y a eu des faits, et pas des moindres, qui se sont penchés sur votre berceau. Eusen Pelsi, François Truffaut, qui vous a conseillé artistiquement. Robert Redford, qui vous a parrainé jusqu'à Hollywood. Marlon Brando, qui vous a dit oui pour un de vos films. On a eu en France l'impression que le conte de fées américain se déroulait pour de vrai. Et puis, vous avez apparemment arrêté de faire du cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du cinéma, je veux dire techniquement, mais j'ai continué à écrire. J'ai formé de jeunes cinéastes en Afrique, qui aujourd'hui ont des prix. Vraiment, je suis très très fière d'eux. Aux États-Unis aussi. Mais j'attendais, je savais au fond de moi que la roue tournerait. Donc, quand moi je me déplace, je fais un film comme Oucas Nègre, qui a un succès international, et ce film, il a 99% noir. L'histoire est universelle, mais les personnages sont noirs. Et que les Américains m'appellent, je dis non.
Et pourquoi vous dites non, vous ?
Parce que je ne voulais pas travailler avec Hollywood, parce que je savais trop bien comment ça se passait. Je me souvenais aussi de l'expérience de Diane Curiste qui a fait Diabolomante. Comment elle est revenue en courant, en hurlant. Elle détestait le système américain.
Bon, alors Robert Redford...
Alors, il m'envoie là-bas. Non, parce qu'il m'a dit, non, tu sais ce que tu veux, tu iras. Et c'est comme ça que j'atterris, donc à Los Angeles, à la Warner. Bon, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils me bombardent de projets, mais que des projets avec des Blancs. Quand je dis blanc, c'est pas péjoratif dans ma bouche, je le dis tout de suite à nos auditeurs, c'est pas raciste.
Vous n'êtes pas une cinéaste anti-blanc.
Je suis pas anti-blanc, non, non.
Alors j'aimerais peut-être qu'on s'appuie sur l'aventure qui a été peut-être une des plus emblématiques de ce que vous dites, c'est l'histoire d'une saison blanche et sèche. Donc je rappelle, c'est l'adaptation du roman sud-africain d'André Brink, publié en 79 à Londres et interdit en Afrique du Sud. Et pour cause, l'histoire, c'est celle de Ben Dutoit, qui est un prof d'histoire, qui prend conscience un jour des conditions de vie des Noirs dans son pays, lorsque Gordon, le jardinier noir de l'école où il enseigne et pour lequel il s'est pris d'amitié, est arrêté. Le professeur entreprend une enquête pour éclaircir les conditions de la mort de son fils en prison.
C'est-à-dire, non, c'est ça, c'est-à-dire que Gordon, son fils, disparaît pendant la révolte
donc
de Soweto. On arrête des gamins. On les torture et l'enfant meurt, on enterre ses gamins et on refuse de dire à Gordon, le jardinier, où est enterré son fils. Donc il va demander à Ben Dutoit, qui est son patron, de l'aider.
Et
Ben
enquêter.
Dutoit lance une enquête.
Et ça donne cette scène presque d'anthologie avec Donald Sutherland qui incarne le prof et donc l'avocat. Tendez bien l'oreille, hein, parce que l'avocat, c'est Marlon Brando et c'est quelque chose.
Oh, I'm terribly sorry. Would you like a cup of tea?
No, thank you. I'm here on a matter of justice.
Oh, justice. Well, I'm afraid that's a trifle more complex to serve you up than a cup of tea. But in any event, please do go on.
For Gordon Gabbany, you remember the story of Gordon Gabbany?
Yes, a dreadful, dreadful, dreadful story.
I want justice for him to the full extent of the law.
You see, justice and law, Mr. Dutoit, are often just... Well, I suppose they could be described as distant cousins, and here in South Africa, they're simply not on speaking terms at all. And I have familiarized myself with your dossier. And I'm afraid that my counsel to you is to just give it up.
Un court extrait en sol majeur sur RFI d'une saison blanche et sèche. Évidemment, il faut parler le Marlon Brando. Aidez-nous, Eusen Pelsi.
Non, en fait, Donald Sutherland, qui est le professeur d'histoire, donc, quand il découvre la vérité, parce qu'il était tellement naïf, lui-même, il n'a pas vu venir les choses, parce qu'il est dans son monde. Lui, il n'est pas raciste, mais il traite son jardinier correctement. Donc, il ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les townships, à Soweto et ailleurs. Et quand il va finalement voir de ses yeux ce qui se passe, il va dire non, c'est pas possible. Non, il faut réagir. Donc il va chercher Marlon Brando,
l'avocat,
et il dit voilà, je vais chercher justice, que vous fassiez justice et qu'on condamne la section spéciale d'Afrique du Sud quoi pour ces crimes. Et là Brando lui dit mais, excusez-moi monsieur Dutoit, mais depuis combien de temps avez-vous vécu, pendant combien de temps avez-vous vécu ici? La justice ici c'est comme des cousins distants. Donc
alors racontez-nous le ce qui s'est passé autour de ce scénario.
C'est une longue histoire.
Non, mais c'est juste pour raconter le bras de fer entre vous et les studios américains.
Ah oui, oh, d'accord, je crois que...
Non,
d'accord,
oui.
Très bien. Au départ, j'ai amené le livre, ils m'ont demandé d'écrire un traitement, un treatment, ma vision. J'ai fait 60 pages, j'ai donné et on a engagé un scénariste, Colin Whelan, qui est un Anglais mais qui veut plaire aux Américains. Le résultat a donné quelque chose de très raciste. Un film qui condamne l'apartheid était très raciste. La façon de parler justement des Sud-Africains, des femmes, des gens. Quand il dit par exemple, oui voilà, dans l'église des Blancs, ici, voilà, les gens sont blancs. Notre personnage principal, il a un fils, sa femme elle est blonde, elle a des yeux bleus. Son fils, il est très athlétique, il est beau et tout ça. Après il dit, maintenant nous sommes à Soweto. À l'église baptiste de Soweto, il dit ici, le noir prédomine, il dit tout est noir, à l'exception des dents et des cols de chemise. Alors moi, j'étais obligée de dire à ce monsieur, bon d'accord monsieur, vous avez écrit ça, ça veut dire que moi qui suis cinéaste, je vais faire un gros plan sur les dents et un gros plan sur les cols, c'est ça. Hein? J'ai dit, moi je n'en veux pas. Et du coup, les Américains ont décidé de m'engager pour pouvoir adapter moi-même l'œuvre. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc, vous qu'on présente Suzanne Pelsey comme la première femme noire à avoir été produite par les studios américains, finalement, puisqu'il y a des raisons raciales qui font qu'on ne vous permet pas d'accoucher de tous ces projets, vous prenez cette décision qui est un peu incompréhensible pour nous, d'arrêter de faire du cinéma. Pour quelles raisons ?
Alors, c'est comme si, comme ça me fait penser un peu au Chevalier de Saint-Georges, cette fameuse chanson qui dit « On nous refusait
du 18e siècle.
Voilà, on nous refusait le droit d'écrire, etc. » Donc c'est plutôt nous dire de mourir. Alors c'est comme si on me disait que vous ne pouvez pas penser de telle manière ce que vous pensez, ce qu'il y a au fond de vous.
Donc c'est comme un combat de boxe, vous êtes KO.
Voilà. Oui, KO, non. C'est comme si on me refuse mon oxygène. Donc si on me refuse mon oxygène, mais vous voulez me donner de l'oxygène pour faire vos films. Donc je me suis dit, je ne suis pas une vendue. On ne m'achète pas. Et après, ils ont compris finalement. Et vous savez, ils ont compris comment ? Quand ils ont vu la trilogie que j'ai réalisée sur Aimé Césaire. Ils ont dit, elle sait d'où elle vient et elle a compris qu'il faut rendre. Il faut redonner ce qu'on t'a donné. Donc moi, je pense que les studios américains, ils ont été très sexistes et très racistes. Pourquoi ? Parce que quand un acteur noir est engagé, vous prenez n'importe lequel, Eddie Murphy, vous prenez Will Smith, on les prend au compte-goutte et on les presse comme des citrons. Ils ont compris, ils ont constaté que lorsqu'on donne à des acteurs noirs un rôle, mais ces mecs, ils cassent la baraque, quoi. Mais vous le voyez, regardez-les vous-même. Quand vous allez au cinéma, vous voyez des blacks à l'image. Vous regardez ces blacks.
Donc les blancs sont inquiets aux États-Unis.
Donc, les studios se sont dit, mais si on engage tous ces Noirs, on fait ça, on va disparaître. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont décidé de limiter justement tous ces projets et de faire croire que Black is not bankable, que vos sujets noirs là, ça n'intéressera personne.
Il y a Black Panther qui est arrivé
Attendez, grâce aux plateformes, ce sont les plateformes qui arrivent et qui financent, etc. Bon, Disney a mis tout cet argent sur Black Panther, pourquoi ? Pas parce qu'ils ont voulu faire un truc pour les blacks, Disney n'a jamais rien fait pour les blacks. Mais parce que c'était un Marvel. Donc Marvel, c'est tous ces jeunes qui sont là, qui en raffolent. Ils ne s'attendaient mais vraiment pas que ce film... Vous savez combien d'argent ils ont fait ? 1,5 billion.
Eh oui.
Vous vous rendez compte ?
Alors, est-ce que ça veut dire parce que...
Et là, maintenant, c'est grâce, je dis bien, là où a tourné maintenant ? Vous avez Get Out, vous avez Les Figures de l'Ombre, c'est trois nanas noires de la NASA. Et là, maintenant, les vannes sont ouvertes.
Donc là,
Je reviens.
Ah là, vous revenez parce
Oui, j'ai attendu.
C'était ma question parce que on se demande si entre les États-Unis et Suzanne Pelsey, c'était fini.
J'étais simplement en veilleuse.
أرضك السلم الكبير.
Quel est votre sol majeur?
Entre la Martinique, Paris et les États-Unis. Eusanne Palsy.
La Martinique, hein?
Ah oui.
Ah oui, quand même. J'aime beaucoup de terre. J'aime beaucoup la Louisiane. J'aime beaucoup Haïti. Et tous ces mondes-là se ressemblent. Donc c'est pareil. Mais j'aime beaucoup la Louisiane.
Mais à vous écouter, être noir des Antilles. Est-ce que c'est franchement moins douloureux aux États-Unis qu'en France?
C'est moins douloureux. C'est moins douloureux parce que, vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous savez ce qui se passe. Si ça ne plaît pas, je m'en vais. Quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a de nombreuses années de cela maintenant, il y a des tas de choses que je n'aimais pas aux États-Unis, mais il y a énormément de choses que j'aimais et que je ne trouvais pas en France. Donc j'ai décidé de prendre tout ce qui est bien, d'ajouter à tout ce que j'ai de bien de ma culture française, mm-hmm. et puis de faire avec. Donc moi... Je ne me suis jamais sentie étrangère aux États-Unis. Au contraire. Bon, au niveau boulot, au niveau des studios, les studios, c'est particulier. Et là, maintenant, ils sont en train de changer. Alors, quand vous êtes femme, et en plus noire, aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez une cote extraordinaire. Et ça, c'est tout récent. C'est grâce à ce qui s'est passé avec les Oscars. Oscar too white, ça veut dire tout trop blanc, trop vieux, trop mâle. Hein, parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas que des blancs et puis des vieux. Donc, une fois qu'on a dénoncé ça... Et c'est ce qui est bien aussi avec les Américains.
C'est acté.
C'est acté, on change tout de suite. En France, ce n'est pas pareil. En France, on va vous punir. On a le sens de la punition. Ah bon, t'as osé dire ça? T'as osé défier l'establishment? T'as osé parler comme ça? Eh bien, on va te régler ton compte.
Alors, j'aimerais qu'on rende hommage, pour terminer cet en sol majeur, à une figure familiale qui vous a aidé à être ce que vous êtes, chère Eusanne Palsy. Et pour l'évoquer, cette figure familiale, on va convoquer un petit peu de bois brûlé.
Lèm an leve le matin ou Mwen ka pran bout kot la Mwen ka mare remwen Pou mwen hay fèt remwen I gade zanim ou mwen ou Le sizè mwen fini Mwen ka pran gan ou a Mwen ka leve zye mwen Pou mwen mande kouaj À la divinité.
Quel Eugène Mona pour en sol majeur. Racontez-nous alors qui était Camille dans votre vie.
Camille, c'était ma grand-mère paternelle, une femme qui descend de ces Indiens Caraïbes, comme on dit chez nous. C'est guerrier. C'est une guerrière, une femme. Très belle, très grande. Hein. Elle a été immense. Elle avait des yeux rieurs, elle était d'une générosité. Et elle m'a raconté tellement d'histoires. Elle m'a conté mon pays, la Martinique. Elle m'a parlé, elle aussi, de l'Afrique. Gamine, elle m'a donné beaucoup de conseils. Quand je suis partie faire mes études à Paris, elle m'a dit, écoute, hein, de toute façon, on te dira que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Eh bien, quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas faire quelque chose et qu'on te met une barrière... Eh bien, tu sautes par-dessus cette barrière et tu continues. N'accepte
Sans
jamais.
Sans être sortie de sa Martinique, elle savait déjà ce que le monde vous réservait.
Absolument.
Est-ce que vous diriez, comme Césaire, qu'il y a une angoisse chez les Antillais qui n'est pas une angoisse africaine?
Oui, je partage tout à fait cela.
Comment vous l'exprimeriez pour vous-même?
C'est-à-dire que c'est vrai que les Africains, ils savent d'où ils viennent. C'est incontesté. Mais l'Antillais, il s'est créé une culture... Avec des
emprunts.
Des emprunts, quoi. Notre créole, il est quoi? Il est bâti, il est fait de français, d'anciens français, d'espagnol, d'anglais, etc. Et de mots caraïbes, de termes, d'expressions caraïbes. Et on nous a menti pendant des siècles. On nous a dit que vous n'avez rien à voir avec ces nègres-là, les Africains. C'est... Non. Vous n'êtes pas Africains. Vous n'avez rien à voir avec eux. Vous êtes Antillais. Vous êtes Français.
Mais alors vous avez intégré cette Afrique, véritablement?
Ben, c'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme une Africaine à 100%, parce que je ne suis pas Africaine à 100%. Je suis descendante d'Africains. Les Antillais sont des métisses. Et moi, j'ai dit que j'ai différents métissages. Il suffit de me regarder, vous pouvez deviner tous mes métissages. Hein. J'ai les yeux bridés, j'ai la peau sombre, j'ai... Bon, je revendique tous mes métissages, Mais le métissage que je chéris le plus, c'est le métissage qui me vient d'Afrique. Parce que c'est celui qui a été le plus foulé aux pieds. C'est celui qui est le plus méprisé, et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'interdis aux gens de me dire que je suis une métisse. Je ne suis pas une métisse, je suis une négresse. Je suis noire.
Et vous êtes contente d'être noire, et je le dis à l'heure où le continent connaît une vague de dépigmentation.
Ah ben totalement, absolument.
Ça vous met en colère,
ça, ou pas?
Ça
me met en colère. Et quand je rencontre de belles jeunes femmes africaines avec cette belle peau noire, je dis ma chérie, ne laisse personne t'entraîner sur cette route de dépigmentation de ta peau. Je lui dis, sois fière de la couleur de ta peau. Et le problème, c'est quoi? C'est le système qui veut ça. Dire aux gens, pour qu'ils soient acceptés, il faut qu'ils soient light skin, comme on dit aux États-Unis. Des noirs à peau claire. Ça veut dire que le noir, non. On a l'impression que c'est gênant de le mettre.
Tentative de disparition, quand même, d'élimination.
Oui, et ça, c'est, toute ma vie, je me suis battue contre ça. Et c'est pour ça que dans Louis Casnègre, regardez un peu cet éventail d'enfants que j'ai. Le petit groupe, il y a tout. Tout le monde est représenté. Et mes films sont à l'image de cela.
En sol majeur. @rfi.fr.
Merci Ozane Palsy, vous êtes donc une digne culbutée de la grosse houle, pour reprendre le joli mot d'Aimé Césaire. Un peu de Handel pour arriver à se quitter, on va refermer son sol majeur sur les vocalises d'Incastra et de ce morceau tiré du film Sur Farinelli, une voix que vous chérissez autant que les prières des merles en Martinique. Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio ou bien chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, presque fidèle au poste, vous retrouve demain avec Monsieur Bertrand Delanoë. À demain.